Bonjour à tous, merci d'être venus écouter cette rencontre autour de Jean-Patrick Manchette. À l'occasion de la parution d'un ouvrage paru aux éditions Anacarsis ce printemps, Jean-Patrick Manchette et la raison d'écrire, qui est lié à un colloque qui s'est tenu à la librairie Mola en novembre 2015. Un colloque qui a été coordonné et dont l'idée a été lancée par Gilles lors de notamment l'anniversaire des 20 ans de la disparition de Jean-Patrick Manchette en 1995, donc 20 ans plus tard, l'occasion aussi de la parution de son journal, d'une partie de sa correspondance, voilà, enfin pas mal de choses autour de l'œuvre. Et je voulais te demander d'abord quel était le désir qui avait conduit à l'envie d'animer, de monter un colloque autour de cet auteur-là.
Bonsoir. Il y a plusieurs choses. Première chose, vraisemblablement, le fait que même si Manchette est connu, il suffit de regarder sur Internet, les blogs, tout ça, même s'il y a des articles, finalement, il n'y a pas eu tant de choses que ça qui ont finalement été écrites. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une forme d'admiration qui existe depuis longtemps, mais c'est pas forcément un auteur qui est tellement, enfin si, qui peut être un petit peu analysé, mais surtout d'un point de vue plutôt politique peut-être que littéraire, et qui est pas non plus tellement discuté. Voilà, il y a pas énormément de discussion là-dessus. Donc c'était l'idée, à partir évidemment d'un goût de lecteur, voilà, d'une forme de passion pour Manchette, de lancer une forme de discussion là-dessus. Et discussion qui nous a paru, je dis nous, parce qu'en fait le livre, même oui. S'il ne peut pas être là ce soir, le livre et le colloque, il était organisé aussi, on était deux, c'était Nicolas Leflaec et moi-même. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que finalement, il me semblait que c'était justifié de faire quelque chose sur Manchette, parce que les perspectives sur Manchette ont changé depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que Manchette a été fameux, à juste titre, pour les romans policiers qu'il a écrits dans les années 70-80, mais que depuis sa mort, en gros, ce qu'on appelle le corpus Manchette n'a pas cessé de s'étendre. Et donc, forcément, on a de nouvelles perspectives. Il y a des nouveaux textes, voilà, des textes qu'on ne connaissait pas, et qui donc n'avaient pas été encore commentés. Donc, c'était l'idée de brasser tout ça.
Mais aussi, c'est pas simplement un hommage. Tu dis dans ta préface que c'est pas simplement révérer un héros. C'est parce qu'il est considéré aussi comme certains Happy Few, comme une sorte de maître, en effet, du néo-polar. C'était aussi donner une certaine forme de vérité sur ce personnage, en fait, aux multiples facettes. On dit, en effet, auteur, le néo-polar, c'est des étiquettes, tout ça. Justement, le colloque et le livre, donc, dans son prolongement, était une façon de rendre justice et vérité à cette figure-là.
Oui, alors c'est pas du tout l'idée de... Disons qu'on n'a pas voulu rétablir une vérité dans le sens où précédemment on aurait dit des bêtises sur Manchette, on n'a rien de tonitruant d'une certaine manière.
Il y a beaucoup de clichés sur l'homme et l'œuvre.
Éventuellement, alors où c'est des clichés, où c'est... C'est-à-dire que je pense que chaque chose est vraie d'une certaine manière, mais la difficulté, c'est la complexité, c'est-à-dire que finalement... On peut dire une chose et puis on peut en dire une autre, etc. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'on puisse dire absolument n'importe quoi. Ce n'est pas le poncif d'une forme d'œuvre ouverte. Mais c'est l'idée que quand même la pensée et la pratique de Manchette sont tellement compliquées, parfois même torturées, que du coup, on se trouve face à des textes qui parfois, finissent presque par dire... J'allais dire le contraire, mais en tout cas, voilà, il y a chez lui une volonté un petit peu d'être toujours dans une forme de dynamique ou de dialectique qui fait que ça justifie une vision qui est une vision pas monolithique sur l'œuvre.
Et richesse aussi qui est donnée non pas que par ses romans, mais par aussi justement le travail dont tu rends aussi visible dans le colloque, dans les actes de ce colloque, et les inédits aussi qui s'y trouvent autour du scénariste, de l'épistolier, de celui qui tenait son journal jour par jour depuis l'âge de 23 ans. Donc c'était aussi toute cette richesse-là qu'il fallait rassembler.
Oui, parce que enfin, ça se participe de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la vision qu'on pouvait avoir jusqu'à un certain point de Manchette, c'était une sorte de météore, c'est-à-dire quelqu'un, voilà, si on replace les choses un petit peu historiquement, c'est quelqu'un qui a, oui, j'allais dire, brûlé très très rapidement, puisque entre 1970 et 1980, il a écrit 10 romans, voilà, qui ont eu à la fois un succès commercial, un succès critique et tout. Et puis, passé 1980, il y a eu une sorte de panne d'écriture ou de recherche qui fait que tout simplement, entre 1981, date de son dernier roman paru, et
La
1995,
position du terreur couché.
voilà, la position du terreur couché, et 1995, date de sa mort, il n'a rien n'est sorti, enfin aucune œuvre romanesque, il y a eu des articles encore ou des choses comme ça, mais aucune œuvre romanesque n'est sortie de sa plume. D'où l'idée, c'était que Manchette était à la fois, d'une certaine manière, un auteur épatant, mais un auteur sur lequel il n'y avait pas tant de textes que ça. Or, ce dont on s'est rendu compte après sa mort, c'est qu'il avait énormément écrit, puisque après sa mort ont été rassemblés à la fois les critiques littéraires, les critiques cinématographiques, tout un tas de choses. Le début de son journal, qui est du point de vue du volume quelque chose d'assez énorme. Donc j'en étais au journal. Enfin voilà, tout un tas de choses, et je ne sais plus quel était vraiment le...
Oui, non, c'était en effet rendre visible toute cette richesse, en fait, qui n'est pas que romanesque, mais qui est une écriture multiple, qui sont les écritures de Manchette. D'où le fait que ce colloque s'est intitulé « La raison d'écrire », puisque justement, pour replacer justement la pluralité de ces écritures-là, quoi.
Oui, parce qu'une des caractéristiques de Manchette, c'est qu'il est à la fois, d'une certaine manière, écrivain, praticien, si l'on veut, et théoricien.
Oui.
Donc, par exemple, tout en écrivant des romans noirs, il a développé, dans des critiques sur le roman, toute une théorie du roman noir. Voilà. Donc, il y a ces deux aspects-là. Et évidemment, on est tenté de faire jouer l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire de lire les textes à la lumière de ces critiques. Ça donne une profondeur de champ particulière, et les choses peuvent se compliquer dans le sens où Manchette, en plus, ne fait pas nécessairement, enfin, n'écrit pas nécessairement des choses qui collent exactement à sa théorie. Voilà. Disons que voilà encore une complexité de plus.
Et justement, comment as-tu décidé ou comment as-tu œuvré pour convoquer, puisque c'est un premier colloque international consacré à Manchette, pour convoquer une myriade de spécialistes, pas que des chercheurs, pas que des universitaires justement, mais qui donnent justement, qui rendent visible toute cette complexité de l'œuvre.
Oui, ça c'est la part un peu galère, enfin la difficulté
Oui.
de trouver des gens. L'idée, voilà, l'idée, comme tu l'as dit, c'était à la fois de faire intervenir des gens qui sont habitués à faire des critiques ou des analyses, donc voilà, des profs, des universitaires et tout, mais aussi de pas avoir une seule sorte d'analyse ou un seul type d'écriture, donc de faire intervenir aussi des écrivains, des éditeurs, des traducteurs, à la fois parce que c'est une autre manière de penser le texte, et puis parce que ça permet d'avoir quelque chose qui soit pas non plus, du point de vue du livre, quelque chose qui soit trop spécialisé, qui soit d'une érudition un peu assommante.
Et y compris des romanciers qui se placent ou qui se réclament d'une certaine façon aussi de cet héritage-là de Manchette, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir comment maintenant on peut écrire à partir de cette figure tutélaire qui est presque pour beaucoup indépassable, mais qui est quand même voilà, qui est là et dont il faut prendre en compte. Donc on a quand même l'intervention de Christian Roux, de Xavier Boissel, qui sont des romanciers en eux-mêmes, qui écrivent aussi, et qui disent comment leur propre vision de Manchette, et notamment aussi le dernier texte de James Salis, qui est très émouvant aussi, où il dit combien Jean-Patrick Manchette a été une forme de comment son œuvre a transfusé la sienne, comme il dit aussi dans la préface du Petit Bleu de la Côte Ouest, qui était réédité par chez Folio. Et justement, alors James Salis n'a pas participé au colloque de façon par sa présence, mais voilà, il y a d'autres textes qui sont surajoutés aux textes des intervenants.
coup.
Ouais. Une des particularités de Manchette, ou je sais pas comment dire, de l'aura de Manchette, c'est que finalement, en préparant le colloque puis le livre, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même énormément d'écrivains actuels, contemporains, qu'ils appartiennent au monde du Poulard ou pas, qui avaient une véritable... voilà, pour lesquels Manchette était une marotte ou une passion. Mmh. Enfin, voilà. Et donc, à la fois, ça faisait beaucoup de possibilités. Il y a ceux qui ne pouvaient pas, il y a ceux qui ne voulaient pas, etc. Mmh. Et puis, là, c'est intéressant parce que, justement, il y a une certaine forme de diversité entre les trois auteurs. Puisqu'il y a un texte de Christian Roux qui, comme tu l'as dit, est un auteur de polar et qui parle de Manchette au nom de sa propre écriture du polar. Donc, il voit ça du point de vue de son artisanat d'écrivain. Il y a un texte d'un autre écrivain qui est contemporain, qui est Xavier Boissel, et qui, lui, n'est pas exactement un auteur de polar, et qui, lui, a une perspective sur Manchette qui est plutôt une perspective ici politique et esthétique. Voilà. Et puis le dernier texte James Salis, qui est à la fois chouette et surprenant, parce qu'on peut avoir l'impression parfois, et je pense que c'est ce qui fait peur parfois, même dans le monde du polar, par rapport à Manchette, que c'est un auteur un peu cérébral, un peu intellectuel, un peu élitiste, ce que je ne pense pas, mais bon, on peut avoir cette impression-là. Et ce qui est assez chouette dans le truc de Salis, c'est que Salis le prend complètement différemment, c'est-à-dire qu'il explique qu'à un moment donné où il était dans une forme d'impasse par rapport, enfin impasse c'est peut-être beaucoup dire, mais où il avait l'impression d'être devenu trop un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui faisait les choses, qui écrivait les choses de manière presque cynique en appliquant des recettes. Donc il a trouvé chez Manchette quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de l'intellect, du cérébral, mais qui est plutôt, comme il le dit, une forme de muscle. Donc il va chercher chez Manchette quelque chose qui est de l'ordre de la force.
Et justement, pour ceux qui n'auraient pas une idée précise ou acquise de ce qu'a apporté Manchette au roman noir ou au roman de façon générale, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant en 2017? Si on pouvait résumer, si on tentait qu'on puisse résumer, quel est l'apport de Manchette, justement, puisqu'on en parle tout le temps, voilà, mais qu'est-ce que c'est vraiment concrètement Manchette dans le roman noir, dans les années 70 et en 2017?
Alors, je vais essayer je peux que lancer des pistes, parce que c'est plusieurs choses qui s'additionnent éventuellement. La première chose qu'on a dite sur Manchette à l'époque, voilà, quand il a commencé à sortir ses romans à la série noire, donc au début des années 70, c'est que la grande nouveauté de Manchette, c'est qu'il avait, d'une certaine manière, réinjecté le polar, qui était devenu, en France en tout cas, ou qui serait devenu, voilà, une forme relativement artificielle, une forme un petit peu folklorique, avec des histoires de truands, d'argots, qu'il aurait réinjecté sur une réalité, qui était la réalité des années 70, qui était en gros la lutte sociale, le terrorisme, voilà. Donc il aurait ramené le polar dans une forme de réalisme politique et social. Et c'est juste d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on peut prendre certains titres de Manchette, comme Nada, qui est un des seuls romans, notamment de l'époque, qui pose la question du terrorisme. C'est vrai pour l'affaire Ngoustro, qui pose la question des compromissions de la France avec le Maroc, etc. Enfin voilà, tout ça c'est juste. Bon, en même temps, il y a une autre manière de prendre les choses, qui serait maintenant un peu plus la mienne maintenant, ou d'autres, mais je ne dis pas du tout qu'elle vaille mieux, c'est l'idée de dire que finalement la grande nouveauté de Manchette, ou sa grande valeur, est une valeur proprement esthétique, littéraire, c'est-à-dire pour dire les choses rapidement, c'est un grand écrivain, c'est ce dont on se rend compte de plus en plus en le lisant et en le relisant, c'est-à-dire que c'est une forme de classique qui a véritablement inventer une forme ou des formes, sachant que les romans ne se ressemblent pas nécessairement les uns les autres. C'est-à-dire que là aussi, c'est une forme de difficulté ou de complexité de Manchette, c'est qu'on peut parler d'un roman, ce qu'on dira sera vrai pour tel roman, mais il n'a jamais, au long de la dizaine de romans qu'il a pu écrire, il n'a vraiment jamais appliqué une formule, voilà, qui le rendrait absolument reconnaissable dès le premier mot.
Justement, est-ce qu'il y a plusieurs micro-lectures dans cet essai fait par plusieurs intervenants qui justement rendent compte de cette langue qu'on a dit souvent, cette écriture sèche, donc en effet comportementaliste, behavioriste, issue du roman noir des années 20, enfin voilà, cette écriture extrêmement de cette époque-là aussi, mais justement ce que montrent plusieurs personnes, c'est que justement on peut pas la réduire à ça non plus, ça, son écriture, on peut pas la réduire à cette seule sécheresse stylistique, même si lui dans ses chroniques ou dans son journal il parle justement de cette il revendique cette forme de sécheresse, il veut arriver à un certain assèchement du polar. Il y a aussi une forme d'émotion dans son écriture, quoi, qui affleure très souvent. Et justement, les passages où est analysée cette émotion sont vraiment en effet sont des révélations aussi pour le lecteur, quoi. C'était une volonté aussi de montrer que le côté behavioriste, que le côté l'écriture sèche n'était pas que le seul apanage de son art.
Oui, alors ça c'est vrai, ça c'est une chose que je
ça revient comme, souvent, voilà, régulièrement.
Je sais pas si on l'a fait consciemment, mais ça a été l'approche de plusieurs personnes qui ont fait des textes. C'est de se rendre compte que là, il y a peut-être quand même une sorte de poncif quand même qui s'est fait autour de Manchette, qui était, voilà, comme tu le disais, l'idée qu'on avait une écriture qui serait une écriture extrêmement sèche, laconique. Bon, c'est vrai dans une certaine mesure, mais alors si on réfléchit, c'est forcément vrai parce que Manchette quand même écrivait à la série noire. Il y tenait, il voulait écrire dans une collection qui était une collection populaire, et les bouquins de la série noire n'allaient pas faire 600 pages, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine forme de format commercial dans lequel il se coule. C'est vrai aussi parce que ce ne sont pas exactement des textes dans une tradition psychologique française, et que donc très souvent Manchette s'attache à une forme de description factuelle, sans introspection, sans épanchement émotif ou lyrique. Bon, voilà. Après, si on regarde dans le détail, comme tu le dis, c'est très compliqué. Parce que, alors là, il y a plusieurs approches dans le livre. Il y a une approche qui, justement, évoque la question d'une forme d'émotion ou de lyrisme paradoxal chez Manchette. Il y a une autre approche qui met en relief ce que Manchette doit à une tradition à laquelle on ne pense pas nécessairement, qui est celle d'une forme de réalisme français du 19e siècle. Il y a encore une autre approche qui met en relief une forme, là, oui, on pourrait dire de lyrisme, ou encore de recherche plastique très très forte et éventuellement assez ornée dans son dernier ouvrage posthume, La Princesse du Sang. Donc, le truc qui consiste à dire Manchette, écrivain sec, et écrivain qui refuse toute forme d'ornementation, d'épanchement, etc., correspond pas au texte.
Et justement, ton texte, justement, celui qui est à l'intérieur, à part l'introduction que tu as rédigée, justement, montre combien je ne me rappelle plus le...
La Princesse du Sang.
Voilà, La Princesse du Sang. Voilà, c'est justement, tu t'attaches aussi à cette œuvre qui est totalement méconnue, finalement, qui en effet fait partie des ouvrages qui sont peu lus ou peu commentés. On fera souvent sur Le Petit Bleu de la Côte Est ou La Position du Rire Couché, qui sont ces œuvres en effet volontiers citées. Et justement, avec le passage de Nicolas Le Fleck, qui justement parle de la fin de Fatal aussi, qui est justement dans ce côté où tout d'un coup il y a une sorte d'apothéose, de lyrisme, de sommet qui est vraiment étonnant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de façon concrète sur ces deux textes?
Sur ces deux textes, oui. Alors pour ce qui est de Fatal, en plus ces deux textes, c'est vraiment deux textes qui sont des textes atypiques, c'est-à-dire deux textes qui n'ont pas été tellement commentés, voire même aimés, même par des lecteurs de Manchette. Fatal, c'est un tout petit, c'est l'avant-dernier, si je ne me trompe, texte paru du romanesque du vivant de Manchette, qui est refusé par la série noire, parce que la série noire considère que Fatal, là, devient véritablement trop hors norme, il n'y a pas assez d'action, enfin, ça ne va pas. Donc, Gallimard le sort, sous une forme comme ceci un peu étrange, c'est hors collection, c'est pas la collection blanche, mais c'est pas non plus la série noire. Et Fatal est un texte assez court, pour l'essentiel très très factuel, et pourtant, il y a, alors, je vais pas raconter, notamment pour ceux qui l'ont pas lu, il y a une fin de Fatal qui est une sorte de poème en prose, voilà, qui est une sorte d'ouverture assez magnifique, une sorte de poème en prose. On pourrait dire que ça glisse vers une forme de fantastique, voilà, quelque chose qui voilà une forme de vision qui, à mon avis, dans la littérature, ou en tout cas dans la littérature de l'époque de Manchette, n'a pas d'équivalent. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Pour ce qui est de La Princesse du Sang, c'est aussi un livre qui est assez mal connu. La Princesse du Sang est paru d'une manière posthume, peu de temps après la mort de Manchette. C'est un roman qui est un roman inachevé, qui correspondait au début d'un cycle romanesque que Manchette avait enfin fini, dont Manchette avait enfin fini par trouver en quelque sorte la solution chimique, qui devait s'appeler Les gens du mauvais temps. Et donc, et pour revenir à une des premières questions que tu me posais, c'est un texte qui est assez fascinant parce que d'une certaine manière, on peut vraiment faire un texte encore plus politique, puisque Manchette s'essaye à essayer d'expliquer pourquoi l'histoire mondiale, depuis l'après-guerre, a pu donner le monde dans lequel on est. Donc on peut considérer que c'est vraiment quasiment un texte engagé. Et en même temps, du point de vue de l'écriture, pour revenir à ce que tu disais sur la question du style, c'est à mon avis un des textes qui est les plus saisissants d'un point de vue plastique, voilà, qui témoigne d'une sorte de recherche vers une forme de beauté complètement inattendue, une sorte, moi, je le vois comme une sorte de, en quelque sorte, le Salambo de Manchette, avec l'idée de ce qu'il y a toujours chez Manchette, de prendre en quelque sorte à contre-pied son lecteur ou les attentes du lecteur.
Justement, donc est-ce que en cela tu considères que Manchette est un écrivain de son temps? Puisque justement tu le qualifies, toi, d'écrivain homme du mauvais temps. Est-ce que c'est un écrivain totalement ancré dans son époque, avec le côté écrivain en effet révolutionnaire, enfin ce côté politique engagé, ou justement toi tu le considères plutôt est-ce que toi tu le préfères plutôt comme cet écrivain qui ne recherche une quête formelle, une quête d'absolu, qui va en avant?
Il y a plusieurs choses. Oui, c'est vraiment quelqu'un de son temps, ne serait-ce que, par exemple, du point de vue de ses goûts. C'est-à-dire, il y a quand même rien de moins réactionnaire que Manchette, c'est-à-dire que toutes les grandes formes d'art populaire du XXe siècle, il les a aimées, il les a analysées, il les a pratiquées d'une certaine manière. Donc aussi bien le cinéma, la bande dessinée, les jeux, voilà.
Même si le cinéma, justement, dans ses chroniques du cinéma, Les yeux de la momie, qui sont réunis... qu'ils ont été réunis après par son fils, il préfère le cinéma hollywoodien, le cinéma de muet, que le cinéma justement de son époque, que le cinéma de la nouvelle vague.
Oui. Mais alors là, de son temps, oui, au sens étroit, il y a un certain type d'évolution du cinéma qui, en gros, pour reprendre un peu ce que Manchette dit lui-même, un cinéma un peu pour classe moyenne, ou un certain type de cinéma français qui l'accable. Bon. Mais le cinéma en lui-même, c'est-à-dire toutes les formes de nouveautés, par exemple, pour voir qu'il est bien de son temps, une des choses qui n'a pas été rééditée de Manchette, ce sont les chroniques de jeux qu'il a tenues dans Métal Hurlant. Et Manchette a été un des tout premiers, par exemple, à faire une analyse des jeux vidéo, à une époque où, en gros, tout le monde considérait que c'était un truc pour dégénérer. Donc de ce point de vue-là, il est vraiment de son temps. Après, il y a d'autres questions qui sont des questions, par exemple, politiques. Je pense, mais là, c'est qu'une hypothèse, et ne connaissant pas Manchette, voilà, ça demeurera une hypothèse, que... d'une certaine manière, il y a toujours eu une forme d'inconfort dans la situation politique dans laquelle il se trouvait.
Parce que dans son journal, par exemple, en 68, il n'y a presque pas de mention d'événements. Voilà, c'est assez étonnant, justement. Donc là, on ne s'apesantit pas sur ce sujet-là, mais c'est vrai que homme de 100 ans, en effet, ça se pose comme... comme question, quoi, parce qu'en effet, en même temps, il y a une sorte d'ouverture pour c'est pas qu'un homme du passé, quoi. C'est aussi un homme qui voit pas mal de choses par rapport à ce qui peut faire le polar et des choses qui justement ont dérouté Robert Soula, le directeur de la série Noire, ou d'autres écrivains, ou d'autres. C'est vrai que c'est une voix particulière, quoi, une voix singulière qui est au-delà du polar.
Oui. Alors, comme tu as dit plusieurs choses sur le fait d'avoir vu des choses avant les autres, d'avoir pratiqué des choses avant les autres. On peut par exemple penser, il y a une histoire qui est connue, c'est l'histoire de Elroy, puisque Manchette a été le premier à faire un article, une sorte d'éloge. Il est sorti de son silence pour faire l'éloge d'Elroy, ce qui a un peu lancé la carrière d'Elroy en France.
En 1987.
Et voilà. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'aussi que Manchette a fait ce que fera Elroy des années plus tard, c'est-à-dire passer d'histoire criminelle comme ceci à une volonté de faire un véritable cycle. J'en parlais tout à l'heure, Légende du mauvais temps, qui est un cycle de panoramique de réécriture de l'histoire. Donc même là-dessus, effectivement, il est assez en avant de certaines choses. Après, pour revenir sur la question politique que tu évoquais, oui, c'est quelque chose que après les lecteurs même ont d'une certaine manière reproché à Manchette, c'est qu'au moment de Manchette qui pour aller vite, se présenter lui-même comme anarcho-marxiste. Au moment de mai 68, il n'y a pas un mot dans le journal. Vraisemblablement, Manchette n'a pas participé à mai 68. Mais ça n'a pas véritablement de sens de vouloir le coincer là-dessus, puisque lui-même s'y prend très bien. Il le dit à plusieurs reprises dans son journal. C'est-à-dire qu'après des années qui étaient des années de travail, de vaches maigres, etc., il commence à avoir du succès, il commence à découvrir une forme de confort, de paix familiale, etc. Et c'est le moment où il pense, comme d'autres, qu'il va y avoir la révolution. Et il est le premier à dire que d'une certaine manière, c'est ce qu'il dit exactement, je crains parce que cette révolution qui va enfin permettre de sortir de cet ordre, ben, en même temps, lui-même le dit, je ne sais que vivre dans cet ordre. Donc il y a toujours, mais c'est ce qui le rend assez passionnant à étudier chez Manchette, une forme d'inconfort, voilà.
Et justement, pourquoi tu dis dans ton introduction, dans ta préface à ces actes colloques, que travailler sur Manchette, c'est terminé pour un universitaire?
Oui, pour un universitaire, notamment pour un universitaire, pour toute forme de critique un peu sérieuse, parce que Manchette lui-même a anticipé certaines choses qu'on pourrait dire, et s'est énormément moqué, notamment des universitaires, en disant que le moment où les universitaires arrivent pour disséquer quelque chose, c'est le moment où la chose en elle-même est morte. Et par ailleurs, il s'est à plusieurs reprises amusé à coincer les universitaires ou les critiques sur une forme d'inculture, parce que c'est aussi ce qui le rend quand même un petit peu, une des choses qui le rend sympathique. Je pense que ce qu'il veut, c'est véritablement toucher un public assez large, et pas nécessairement un public de savants, d'érudits, de classe supérieure. C'est pas son objet.
Oui, justement, c'est l'un des nombreux paradoxes du personnage, quoi. C'est justement le fait de vouloir être à la fois populaire et totalement s'inscrire aussi dans une sorte d'histoire littéraire. C'est un des nombreux paradoxes, cette vitalité paradoxale, justement. À un moment, le texte, il y a un texte qui est cité que tu mettais en exergue de ton colloque et que tu mets en exergue aussi de cet ouvrage. Comme il dit, cette vitalité paradoxale que tu as voulu montrer, justement, c'est cet homme de contradiction dont lui-même était conscient. C'est cette lucidité extrême. Donc justement, on peut lire Manchette, son journal, comme si ça avait été écrit hier presque. Ça apporte beaucoup encore pour l'écriture ou pour la littérature d'aujourd'hui. C'est cette façon-là de prendre un écrivain et de montrer justement la vitalité aujourd'hui, la force qu'il a de notre, de notre pour dire des choses sur la littérature en général. C'était ça l'idée.
Oui, vraiment, l'idée c'était d'avoir une sorte d'introduction, en gros, aux œuvres complètes de Manchette, faites par des gens venant d'horizons différents, qui partagent le fait d'aimer ou d'aimer beaucoup Manchette. Bon. Et comme il n'est pas possible de faire 320 ans, c'est bien juste, etc. Bon, il faut bien faire à un moment donné.
Il y a une approche, voilà. Y a une approche aussi de ceux qui l'ont mis en bande dessinée, de ceux qui l'ont mis même au théâtre. Donc il y a des approches vraiment plurielles.
Oui. Et voilà, donc il faut qu'il y ait une part de commentaires et d'analyse. Mais finalement, et donc très bien si cette part de commentaires et d'analyse, elle amène au texte, mais évidemment, ce qui est le plus important, c'est le texte. Là, j'en ai eu, par exemple, cette année, c'était la première fois que je faisais cours sur Manchette, et je me suis posé la question de savoir est-ce que des étudiants de maintenant, qui ne sont pas en plus forcément des énormes lecteurs, est-ce que ça ne va pas leur apparaître comme un truc un peu vieilli? C'est les années, c'est la France, les années 70, 80, bon, voilà. Et donc, je leur ai proposé de lire un des premiers romans noirs de Manchette, Au Dingo au château. Et ça m'a surpris et en même temps, ça m'a ravi. Il y a un accès direct au livre. C'est-à-dire, c'est un public qui n'est pas préparé. Il y a un accès direct au livre. Et j'ai le souvenir d'une étudiante qui disait, en parlant de Au Dingo au château et du périple de l'héroïne du roman, ça m'a donné envie de changer de vie. Bon. Et ça, c'est plus important que tout le reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à toucher physiquement le lecteur. Et finalement, ces analyses-là, elles sont que des, on l'espère, des tremplins vers ça.
Oui, donc justement, qu'est-ce qui toi, te touche en tant que lecteur, personnellement, sur l'œuvre de Manchette? Parce que toi, à la base, tu viens du culture un peu classique humaniste, tu as fait une thèse sur Pascal, quelle était ta vision, toi? Qu'est-ce que tu as appris après ce colloque? Qu'est-ce qui t'a conforté dans cette passion?
Ben, ce qui me touche, plein de choses, alors pour reprendre des choses dont je n'ai pas parlé, le fait que ça soit drôle.
Il
y a quelque chose de très souvent drôle, il y a un côté potage, il y a un côté farceur chez Manchette, qui fait que vu ses facilités, vu parfois une forme d'agressivité qu'il peut avoir, ça pourrait dégénérer finalement dans une certaine forme d'arrogance ou de côté pontifiant, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a toujours une forme de distance et très souvent d'humour chez Manchette. Donc ça, c'est une autre chose qui m'a plu chez Manchette. Pour ce que tu disais sur le rapport avec les classiques, il y a ça aussi chez Manchette, c'est-à-dire que Manchette est quelqu'un qui a pas mal lu les classiques et qui en a pris, c'est encore un autre aspect de son style, qu'en a pris des tournures de phrases, on retrouve des choses, le peu que j'ai pu reconnaître, voilà, on retrouve des choses très très anciennes dans son écriture. Et ce que j'ai appris, alors oui, plein de choses que j'avais pas vues et qu'ont dites un certain nombre de personnes à la fois pour le colloque et pour le livre. Non, là où je suis conforté, c'est en gros, je pense, et c'est pas une ruse là que j'emploie ou une sorte de fausse modestie, je suis persuadé que je ne sais toujours pas véritablement l'analyser. C'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours quelque chose qui résiste à l'analyse, et qu'en relisant les textes, on redécouvre toujours des choses, donc que c'est pas arrêté, voilà.
Et par rapport aux interventions de ceux qui ne sont pas des écrivains ou des universitaires, est-ce qu'il y avait certaines ou qui ne sont pas forcément, enfin, je pense notamment à l'intervention autour du cinéma ou autour de Melanie White, qui est un roman totalement à part, vraiment on n'entend pas parler non plus sur l'œuvre de Manchette, puisqu'il a écrit aussi des fictions pour les adolescents et notamment au début de sa carrière. Ou des scénarios, les novélisations. Est-ce que c'était aussi un aspect qui était important d'inclure dans ce colloque, justement, des textes en dehors
du corpus
romanesque officiel?
Oui, bien sûr. Bon, et là, c'est une des choses, sans trop se jeter de fleurs, mais dont on est content. C'est-à-dire que tout simplement,
oui, c'est étonnant de découvrir ça.
Il n'y avait pas eu, par exemple, de texte sur un grand texte comme il y en a un ici, fait par François Guérif et Jeanne Guyon, sur la correspondance de Manchette. Parce que c'est aussi un aspect extrêmement important de Manchette. Il y a énormément de lettres qui peut-être seront éditées un jour, mais là, il y en a quand même certaines qu'on connaît. Donc là aussi, c'est un aspect important de l'œuvre qui n'avait pas été vu. Il n'y avait pas encore de texte qui fasse aussi, en plus qu'il le fasse aussi bien qu'ici, qui fasse une sorte de une vision générale des critique de cinéma, de Manchette. Voilà, donc vraiment, il y avait l'idée d'ouvrir à toutes les formes d'écriture, toutes les formes d'écriture de Manchette. Mon idée étant quand même, enfin, ce qui fait que la lecture de Manchette, à mon sens, n'est jamais ennuyeuse, c'est que la chose un peu fascinante, c'est, on ne l'a pas dit, c'est quelqu'un qui a commencé par des travaux alimentaires, donc qui a pu écrire au début toutes les... éventuellement les cochonneries possibles, enfin voilà, ça allait de tel roman de gare à tel roman porno, en passant par telle ou telle chose, et qui a vraiment travaillé énormément pour gagner sa vie, et je pense, et lui-même le dit, qu'il s'est véritablement forgé une sorte d'instrument et de souplesse dans l'écriture. Voilà. C'est-à-dire qu'avant d'être un intellectuel, avant d'avoir des idées, lui-même le dit, c'est l'aspect technicien, qui est quand même parfois assez sidérant chez lui, qui fait que, comme d'autres écrivains, mettons des écrivains classiques, si on prend Chateaubriand, d'une certaine manière, Chateaubriand, c'est toujours bien, parce que Chateaubriand écrit bien de manière générale. Et chez Manchette, je dirais que c'est toujours bien parce que il s'est forgé une sorte de technique qui fait qu'en gros, il peut aller un peu où il veut.
Est-ce que tu as eu accès à des choses justement qui n'étaient pas finalement dans le circuit, qui n'était voilà, qui grâce à son fils ou grâce à son éditeur François Guérif, est-ce que tu as eu accès toi à des documents ou à des choses qui t'ont permis aussi de construire cette...
Non, pas forcément énormément. Les trucs, tout le monde, enfin, pour peu qu'on y aille, par exemple, il y a des textes qui n'ont pas été encore réédités ou même édités, qui se trouvent à la BNF, puisqu'il y a un dépôt qui a été fait d'une partie des textes de Manchette. Il en est question un peu. Il y a, par exemple, son essai le projet Marie Immaculée, ce qu'il appelle le premier roman porno communiste de l'histoire du monde, qui présente, alors il y a une trentaine de pages qui existent, à un moment donné, parce qu'il a essayé plein de trucs, il en a eu marre, peut-être il a eu raison, parce que c'est pas non plus, on va dire, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est intéressant parce que c'est aussi un autre type d'écriture. Voilà des petites choses comme ça, et puis on sait de toute façon qu'existe de quoi faire encore des tomes du journal, qu'existe toute une correspondance, que pourraient être rééditées les chroniques de jeu de la même façon qu'ont été éditées les chroniques littéraires, les chroniques cinéma. Donc il y a encore pas mal de choses à découvrir sur Manchette.
Et en quoi il, ce qui est étonnant, ce que j'ai découvert ou redécouvert, c'est qu'il parle à plusieurs reprises lui-même de la mort du roman noir. Est-ce que c'est étonnant? Donc justement là aussi c'est un paradoxe vivant quoi. Qu'est-ce qu'il entend par là?
Ah, c'est compliqué l'histoire de la... C'est compliqué parce que aussi il dit ça tout en écrivant des romans noirs et en continuant quand même de considérer que, en gros, c'est la grande littérature, ce qu'il appelle la grande littérature morale du XXe siècle, c'est-à-dire la seule littérature qui peut avoir une forme de réalisme critique sur la société. Une de ses idées, parce que là, vraiment, je prétends pas, je serais incapable là, de faire rapidement le tour quand même. Une des choses qui, selon lui, font la mort du roman noir, c'est que le roman noir ne peut plus être ce qu'il a été au départ. Dans les années 20, 50, le grand roman noir, Hamet et les autres, ce qu'il appelle une littérature de contrebande, c'est-à-dire une littérature qui est finalement une sorte de littérature industrielle, qui est faite pour le marché, et qui en même temps, de manière subreptice, introduit voilà, une forme de subversion, de critique de l'ordre social, et là précisément, bah, l'ordre social en général, de l'ordre capitaliste. Ça pour Manchette, d'une certaine manière, ça ne peut plus avoir lieu, et c'est encore ce qui explique qu'il a l'impression d'être au mauvais moment, au moment où il écrit. Pourquoi ? Parce que le polar commence à devenir une forme qui est valorisée culturellement, et donc étant valorisée culturellement, elle n'a pas ni la belle innocence du début, ni ce caractère de contrebande qu'elle avait. Voilà. Donc c'est pour ça que Manchette aussi a une relation, qui est parfois une relation un petit peu critique ou agressive avec ses confrères, sur l'idée qu'on ne peut pas en gros se faire prendre pour des desperados quand on œuvre dans un genre qui est finalement un genre qui commence à être valorisé autant que les autres. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, une des choses que j'ai vues marrante, dernièrement c'est une lettre qui n'a pas été éditée de Manchette, où il explique justement son idée d'écrire du porno, c'est pour aller dans encore une fois, trouver un autre genre, mais un genre qui ne soit pas le genre valorisé que le polar commence à être. Donc aller toujours là où finalement ne sera pas la norme ou une certaine forme de doxa.
Et donc justement, il réfléchit au polar, enfin au genre noir, comme il réfléchit aussi au cinéma. On peut faire des parallèles entre sa vision du roman noir et sa vision du cinéma. Est-ce que c'est quelque chose, lui-même, il avait conscience de ça, que c'était des arts qui étaient proches.
Oui, il y en avait.
L'amour du cinéma aussi pour lui.
Voilà, il y a aussi l'idée de la mort du cinéma. Je pense qu'au-delà de telle ou telle théorie, c'est aussi une question de goût. C'est-à-dire que son goût le porte plutôt vers le grand cinéma hollywoodien, comme on l'a dit tout à l'heure, que vers le cinéma de son époque. Et puis de toute manière, ça communique nécessairement dans son idée, puisqu'il faut le rappeler aussi. Au départ, Manchette, en tout cas c'est ce que lui-même dit, ne voulait pas nécessairement être écrivain, il voulait œuvrer pour le cinéma, il voulait écrire des scénarios, etc. Et c'est en écrivant pour le cinéma que, lui-même le dit, il a découvert une forme de plaisir ou de goût pour l'écriture. Néanmoins, il a continué aussi à travailler pour le cinéma.
Oui, donc il a le roman, la vocation du romancier était du romancier de littérature, de roman noir, était presque, il tombait pas presque par hasard dedans, quoi. C'était une forme de confluence de plusieurs d'une écriture. À la base, il a été avec Jean-Pierre Bastide, il a fait en effet pour des scénarios de films, et après voilà, il est venu à l'écriture en elle-même seul, quoi.
Ce que tu dis, c'est qu'il serait tombé un peu par hasard dedans, c'est ça ?
Oui,
peut-être. Alors ça, c'est un truc qui fait un peu débat. Moi, oui. Je ne sais pas. Voilà, on peut avoir deux perspectives sur la chose. Soit on peut considérer qu'en gros, il était presque né pour faire du polar, qu'il avait une vocation pour ça, et voilà qu'il a suivi cette ligne. Soit on peut considérer que finalement, il y a eu un succès, il y a eu un ensemble de contingences qui ont fait qu'il a œuvré dans le polar, et rétroactivement, comme il était très intelligent, il a bâti toute une théorie pour justifier son choix, pour donner une certaine forme d'assise, etc. Bon, voilà, là, d'une certaine manière, les deux idées sont légitimes, on peut penser l'un ou l'autre.
Et justement, quand tu as structuré ton colloque et en même temps les actes de ce colloque, puisque certains textes tu les as inclus, certains textes ont été rajoutés après la tenue du colloque, comment t'as organisé le travail? Justement, t'as pas organisé de façon chronologique suivant la vie de Manchette, bien sûr, t'as pas organisé non plus ça de façon totalement thématique, le cinéma, la BD, voilà, comment t'es venu la structure en fait de l'ensemble de ce travail.
La structure, elle nous est venue.
Est-ce que les textes aussi étaient prévus au départ, ou est-ce que c'était de commande entre guillemets, ou est-ce que c'est toi après les avoir reçus qui a organisé ça ainsi?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire très 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 honnêtement, c'est qu'une fois qu'on a tous les textes, voilà, on s'est posé la question de savoir, puisqu'il y a des textes qui n'étaient pas prévus, hein, des textes qui sont arrivés, par exemple Jeanne Guyon et François Guérif, c'était pas prévu. James Alice, il faisait pas partie du colloque. Donc les choses ont évolué. Là, très honnêtement, on avait un ensemble de textes, et l'idée, c'était, comme ça fait quand même 300 pages, on n'allait pas les mettre tous à la queue leu leu, etc. Il allait falloir trouver des divisions, comme tu l'as dit, il y a des divisions qu'on n'a pas voulu avoir. Les divisions thématiques me paraissent un peu ennuyeuses et n'amènent pas voilà, l'idée de faire les femmes chez Manchette, le truc, le machin, etc. Bon, donc on a essayé de fonctionner avec ce qu'on appelle là des propositions, c'est-à-dire un petit peu des pistes de réflexion. Donc un exemple de piste de réflexion, ça sera le chapitre qui s'appelle Manchette s'échappe, point d'interrogation. Donc c'est l'idée de ça. Éventuellement, ce qu'on pouvait faire rentrer dans ce chapitre, c'était tous les textes qui présentaient des formes de sortie de route de Manchette, donc par exemple la science-fiction, donc par exemple le cinéma, etc.
Et le Manchette écrit tout de même, puisque le tout de même est important, c'est une reprise d'une locution adverbiale que Manchette emploie lui-même. C'était quoi cette idée ?
L'idée du Manchette écrit tout de même, c'est l'idée que Manchette, dès le départ, on peut le lire dans les premières années dans son journal, dès le départ, Manchette ne cesse de, enfin ne cesse de, j'exagère, mais insiste en gros... sur le fait que, en gros, la cause est entendue, c'est fini, l'art est mort. Enfin, il y a toute une série d'affirmations qui viennent, qui sont des affirmations que Manchette n'invente pas, qui reprend aux années 20, et notamment à Dada, qui est une des sources d'inspiration finalement assez inattendue de Manchette. Voilà, avec cette idée d'une mort de l'art, parce qu'on serait passé du côté le tout serait passé du côté de la marchandise, et donc ne nous leurrons pas, la marchandise culturelle est une marchandise comme les autres. Donc ça, Dada le disait déjà dans les années 20. Évidemment, quand Manchette le dit au moment des années 70, ça paraît encore plus vrai, d'autant plus qu'au moment des années 70, il y a des réalités historiques, sociales, éventuellement révolutionnaires dans la tête des uns et des autres, qui font qu'on se dit qu'il y a peut-être d'autres priorités. Donc, en gros, tout devrait concourir d'une certaine manière à ne pas écrire, sauf que, évidemment, il écrit, et que là, les textes qui sont mis les uns à la suite des autres, les trois textes, je crois, dans ce chapitre, essayent un petit peu d'explorer ce paradoxe. Pourquoi, comment est-ce que Manchette écrit tout de même, malgré tout ce qui pourrait s'opposer à la pratique de l'art.
C'est aussi l'un des premiers à avoir apporté la nuance entre polar, policier, parce que justement c'est une nuance qui est assez, mais c'est très éclairant aussi de voir quelle est justement cette nuance qu'il apporte.
Ouais, c'est une idée.
Ça c'est intéressant, je trouve.
C'est une idée qu'il développe dans les chroniques qu'il écrivait pour Charlie. C'est l'opposition entre le roman traditionnel. Alors, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être critiqué dans les détails, mais qui est quand même très 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 opératoire si on prend des grands ensembles. Le roman traditionnel, comme le roman à énigme anglais, et véritablement ce qui lui l'intéresse, à savoir le roman noir, ce qui naît dans les années 20 aux États-Unis. Le roman à énigme étant finalement un roman conservateur, puisque ce que met en scène le roman à énigme ou le roman de type Agatha Christie, c'est une sorte de fracture de l'ordre social à travers un criminel, et la résolution, il y a bien une résolution de l'intrigue qui se fait puisque le criminel est arrêté et que finalement on revient à une forme d'ordre. Bon, là où ce que le roman noir type d'Achille Hamet, ce que le roman noir type d'Achille Hamet va mettre en scène, c'est l'idée tout simplement que c'est l'ordre en lui-même qui est mauvais. C'est pas l'infraction qui est mauvaise, c'est l'ordre. Pourquoi ? Et là, Manchette le dit de manière la plus ferme et parfois la plus drôle, parce qu'il s'amuse lui-même d'enfoncer le clou. Cet ordre, c'est tout simplement l'ordre du capital, ce qui correspond à une réalité. Et il revient à des textes historiques qui étaient quand même pas très... Justement, un des mérites de Manchette, c'est d'avoir lu aussi, comme il disait en version originale, des textes anglais, d'historiens, etc. Cette réalité, c'est la réalité historique des années 20 aux États-Unis, c'est-à-dire, là encore, une situation pré-révolutionnaire, avec des luttes, des émeutes, mais qui va être, d'une certaine manière, matée dans le sang, notamment à travers l'introduction des hommes de main, de la mafia. C'est-à-dire que c'est le moment où les patrons font appel à la mafia pour réprimer les luttes. D'où le fait que le crime organisé devient un élément constitutif de l'identité américaine. Voilà. Mmh. Et selon Manchette, c'est ça, pas seulement, mais c'est principalement ça que montre le roman noir.
Mmh. Et en quoi ces romans, donc Le Petit Bleu de la Côte Est, Le Fatal, La Position Tireur Couché, en quoi revivifie-t-il ce cadavre-là ? Parce que justement, en quoi il ranime ce cadavre, justement, où il s'inscrit dans cette histoire littéraire-là ?
Ben alors là, j'ai vraiment du mal à répondre à cette question, parce que là, j'ai un peu évolué là-dessus. À part certains romans de Manchette qui ont véritablement un fondement politique extrêmement net et clair, comme Nada, puisque Nada, qui montre à travers, en gros, l'enlèvement de l'ambassadeur des États-Unis. Qui a un roman qui a quasiment une valeur pédagogique, puisqu'il veut, après ça va devenir Action Directe, en gros, il veut montrer que c'est une impasse, une erreur de passer à une forme de terrorisme. Pourquoi ? Parce que le terrorisme va participer, finalement, va participer à l'ordre. Bon, donc entre la police et le terrorisme, on a, comme il le dit, les deux mâchoires du même piège. Alors là, on peut dire que Nada est un roman politique, oui, dans une mesure très nette. Après, il y a d'autres romans de Manchette sur lesquels j'hésite beaucoup à parler, même s'il est présent, même si on peut le trouver. Il y a bien un contenu politique, on pourrait l'analyser, on peut prendre des éléments, il y a des textes qui le font, mais moi, dans ma lecture, c'est pas la chose à laquelle je suis le plus sensible. Ou en tout cas, s'il y a un contenu politique, ce contenu politique est souvent ambivalent. Enfin voilà, il n'y a pas une netteté absolue. Je pense que ce qui est plus intéressant, enfin plus intéressant, je ne sais pas, mais la dimension politique, elle est plus dans le fait d'écrire pour une collection populaire, la série noire, que dans le contenu des idées qui seraient infusées dans des romans qui ne sont absolument pas des romans à thèse chez Manchette.
Andrew Pepper, l'un des intervenants du colloque qui est repris dans le livre, il était vraiment aussi,
oui, il était
dans le colloque, oui, je ne me trompe pas. Il parle donc justement de l'écrivain engagé Manchette. Il dit que Fatal justement met à nu le capitalisme, ce capitalisme d'État, selon ses lectures aussi qu'il a eu d'Hegel, de Engels, des historiens et des parce qu'il y a une lecture vraiment très précise et très fine justement de ces textes de théoriciens que lui-même après a infusé dans ses romans. Donc il y avait vraiment une lecture de cette époque-là, justement cet engagement qui est là, quoi, et l'engagement aussi dans la forme, justement. Il montre justement que le seul engagement peut-être perceptible chez Manchette, c'est qu'on ne peut pas contredire, c'est l'engagement dans la forme, justement l'écriture qui reste presque le cœur même de son travail, le cœur même du travail que tu montres ici.
Ce que dit, oui, en plus, ce que dit Pepper là, de manière assez honnête, c'est qu'il essaye de suivre un petit peu la narration de Fatal en se posant une question très simple: qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça montre, l'action d'Aimé Joubert dans Fatal, etc. Il en arrive aussi à l'idée que ce que ça montre n'est pas tellement évident, que le rôle politique d'Aimé Joubert, il peut être discuté dans le roman. Et donc, finalement, voilà. Alors, c'est vrai que ça apparaît comme une sorte de sortie un peu facile de dire que c'est dans la forme qu'il y aurait l'engagement. En tout cas, la fin de Fatal dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de forme de déchirure du réel qui intervient à la fin du roman, a peut-être plus d'ampleur ou de puissance politique que tel ou tel élément du trajet d'Aimé Joubert. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit.
Si, après, c'est vrai que c'est par rapport à la lecture de Fatal que ça nous amène à revoir, justement, à relire ces textes-là à la lueur de ce qui est dit. C'est ça que permet ce colloque, parce qu'on a lu les textes de Manchette aussi, d'une sorte de stupéfaction, de choses uniques en son genre. Et justement, les écrivains, alors certains écrivains qui ne figurent pas là, comme Hervé Lecor ou d'autres qui étaient là au colloque, disent justement leur dette par rapport à l'univers de manchette, quoi. Justement, Dominique Manotti, par exemple, je pense aussi à elle qui nous a déjà dit combien c'était quelque chose de présent. Est-ce que d'avoir pris Christian Roux ou Xavier Boissel, c'était une façon justement de rendre compte de ça, de cette dette, cet héritage justement, d'avoir choisi ces deux auteurs là.
De l'héritage de manchette, oui, chez les auteurs, oui. Oui, alors héritage dans la manière de...
Est-ce que c'est représentatif de cet héritage? Parce qu'il y a d'autres, il y a David Peace, il y en a plein qui se réclament.
Il y en a plein, et en même temps, héritage littéraire difficile à déterminer, ça aussi c'est quelque chose qui a été... Parce qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas de postérité de manchette, il n'y a pas d'épigone, il n'y a pas une école du tout manchette, ce qui tient peut-être aussi au fait que la formule littéraire de manchette soit pas du tout une formule évidente, et que donc, alors évidemment il y a pu y avoir des pastiches, mais pour faire quelque chose un petit peu au long cours, ça devient plus délicat, puisqu'il n'y a pas une sorte de manchette univoque qui se détacherait, dont on pourrait faire le chef de file d'une école.
Oui, voilà, parce que le côté néo-polar lui-même, il s'en défendait, quoi, ce côté, cette étiquette-là, cet étendard-là.
Oui, parce que néo-polar, en plus, c'est un terme qu'il avait employé.
Qu'est-ce que ça veut dire
sous la forme. L'idée du néo-polar, ça serait l'idée d'une sorte d'ersatz du polar, de forme dégradée du polar, qu'il avait employé sous la forme de la plaisanterie, mais qui a été repris un peu d'un point de vue journalistique, et pourquoi pas d'ailleurs, sur l'idée que manchette, avec le néo-polar, c'était la réinvention du polar, comme on l'a dit tout à l'heure, sous une forme très très contemporaine, très très politique ou très très gauchiste dans les années 70. Après sur cette question du néopolar, manchette s'en est défendu. Pourquoi ? Parce que néopolar, c'est devenu justement une sorte d'étiquette, en gros, pour aller vite, comme il le disait lui-même, pour écrire des romans noirs de gauche avec un O, un accent circonflexe sur le haut, donc c'est-à-dire avec une certaine forme de complaisance à toujours raconter les mêmes histoires en se plaçant d'un point de vue un petit peu schématique ou dans une certaine forme de confort idéologique, là où les romans de manchette sont pas des romans du confort idéologique, et que justement ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est que même s'il y a aucun doute sur ce qu'était Manchette, lui, politiquement, justement, je pense qu'il essayait véritablement de ne pas écrire quelque chose qui représente une certaine forme de caricature de la position de gauche ou d'une position de gauche de l'époque.
Et donc, justement, tu dis dans ta préface combien regarder Manchette d'assez près, c'est redécouvrir la vertu de la conflictualité. C'est justement c'est ça, comment on pourrait résumer de cette façon, toutes les complexités de cette figure mythique, en effet tutélaire, mais qui en même temps l'a rendue dans sa plus grande pluralité, quoi.
Ouais, alors la conflictualité, hein, j'en parle, mais c'est ce qui fait aussi un des charmes de Manchette. Là, c'est pas nécessairement les œuvres, c'est en gros sa manière de se comporter. Quand on regarde des textes qui sont des textes un petit peu périphériques, comme des textes de la correspondance ou du journal, Manchette ne déçoit pas d'un point de vue, enfin, ce qu'on peut en lire d'un point de vue personnel, ce que je cite dans la préface, ce que je fais, c'est une sorte de comparaison entre, justement, on parlait tout à l'heure des universitaires ou des critiques, entre une réponse qui fait à une revue, je crois que c'est Poétique, la revue Poétique, donc revue qui fait un numéro sur le très très sérieux sur le roman noir, où il est littéralement odieux, il en fait des tonnes, quelque chose qui est quasiment de l'ordre du mouvement de cap, quoi. Il est le plus cinglant possible. Et puis on peut mettre ça en comparaison à une réponse qui fait à une classe de Dordogne de dessinateurs en bâtiment, dont la prof avait envoyé un questionnaire à Manchette. Et il répond extrêmement gentiment, j'allais dire presque tendrement, avec une forme de d'application. Et alors, qu'est-ce que ça montre ? Je dirais pas que ça, on peut pas en tirer une conclusion qui serait une conclusion radicale, mais que ce qu'il y a d'assez charmant parfois chez Manchette, c'est d'avoir une forme d'agressivité ou de radicalité ou de conflictualité, comme tu disais, mais qui est une conflictualité qui ne s'adressent pas, enfin qui s'adressent à des gens qui sont plus protégés généralement. Voilà. Un certain type de public, un certain type de critique, etc. Et après, quand on regarde d'autres textes ou la manière dont il répond à des gens totalement inconnus, c'est là où il se révèle parfaitement charmant.
Donc justement, après on n'a pas parlé de l'analyse des romans, des premiers romans, des deux Tarpons avec Morgue Plaine, etc. Mais c'est vrai que toi, en tant qu'universitaire ou en tant que lecteur de Manchette, qu'est-ce que tu conseillerais à un lecteur qui voudrait s'initier à Manchette, par lequel commencer? Parce que c'est vrai qu'il a donc parmi les 10 de sa décennie. C'est des cas prodigieuses, donc comme dit dans le Quarto Gallimard, quel est celui qui serait le plus... toi, tu fais commencer par Odingo, Château, tes élèves, tes étudiants, mais lequel...
Oui, mais je me suis posé la question beaucoup, et en plus, moi, je sais pas vraiment répondre, parce que moi, j'ai pas commencé par les romans, j'ai commencé par les chroniques, c'est-à-dire du vivant de Manchette, je le connaissais même pas, j'avais rien lu, et donc c'est en 96 que j'ai lu à la sortie les chroniques, et ayant adoré les chroniques, j'ai lu les romans, mais qui m'avaient pas tant plu que ça au début, qui m'ont un peu surpris, je savais pas trop quoi en faire, et donc j'y suis revenu, et donc maintenant je suis un peu perdu pour conseiller quelque chose. Si on veut prendre quelque chose d'immédiatement séduisant, voilà, qui est un bon exemple de tout ce que peut faire Manchette, presque dans une certaine forme de légèreté, mettons Le Petit Bleu de la Côte Ouest. Mais on peut commencer par toute autre chose, ou mettons La Princesse du Sang, pour avoir quelque chose qui soit plus de l'ordre du grand spectacle.
D'accord. Mais merci beaucoup, Gilles, d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir présenté ce acte du colloque qui s'était déroulé chez Mola et donc qui maintenant sont en livre chez Anacarsis. Merci à vous.
Merci.